La Bible révèle que la fin de toutes choses est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ.
Alors ce matin, nous allons considérer le dixième et dernier commandement de l'Alliance de Dieu, lequel nous lisons en Exode, chapitre 20, verset 17. Exode, chapitre 20, et alors que nous terminons cette longue série d'études, je pense que vous êtes maintenant familiarisé avec cette partie de la Bible. Exode, chapitre 20, verset 17, où nous lisons « Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui soit à ton prochain. » La première chose qu'il faut établir et que je vous demande de garder à l'esprit durant toute cette présentation, c'est que, contrairement à la lettre des quatre commandements précédents, le dixième ne cible pas une action, un acte, mais un désir. Et je devrais peut-être même dire, contrairement à la lettre des neuf commandements précédents, lorsque l'on regarde bien. Okay. Là, le dixième commandement, dans sa lettre même, il ne cible pas une action, un acte, mais un désir, une pensée, un sentiment, un désir. Okay. Comme le neuvième, notez que ce commandement a un objet. Autrement dit, notez qu'il ne dit pas simplement « tu ne convoiteras point ». En effet, cela n'aurait eu aucun sens, étant donné que le terme traduit par « convoitera », lequel vient de l'hébreu « hamad », est employé de manière permissive et même recommandable. C'est ce que nous voyons en Psaume 68, verset 17. Où allons-nous? En Psaume, chapitre, ou tout du moins, Psaume 68, verset 17. Psaume 68, verset 17, où il est dit, « Pourquoi vous élevez-vous, monts, aux cimes nombreuses, contre la montagne que Dieu a choisie pour sa demeure ?» L'Éternel y habitera pour jamais. Dans ce verset que nous venons de lire, Hamad est traduit par choisi. Dieu lui-même éprouva cela. Et, voyez-vous, nous devrions tous éprouver cela pour Jésus-Christ, n'est-ce pas? Je dis cela parce que c'est ce que n'ont pas fait certaines personnes, d'après ce que nous lisons en Ésaïe, chapitre 53, versets 1 et 2. Je vous invite à vous rendre avec moi maintenant en Ésaïe, chapitre 53, et à considérer avec moi les deux premiers versets de ce chapitre du livre du prophète Ésaïe. Ésaïe 53, versets 1 et 2, où il nous est dit « Qui a cru à notre message et à qui, tout du moins, le bras de l'Éternel a-t-il été révélé ?» Il est monté devant l'Éternel comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre desséchée. Il n'a ni beauté ni éclat qui nous le fasse regarder, ni apparence qui nous le fasse désirer. Au verset 2 d'Exode, d'Ésaïe, excusez-moi, 53, où nous avons là une prophétie qui nous parle du Messie, du Christ, de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Eh bien, au verset 2 de ce chapitre 53 d'Ésaïe, Hamad est traduit par désiré. C'est parce qu'ils n'ont pas désiré l'humble Jésus que les Juifs l'ont mis à mort et ont ensuite été rejetés en tant que nation. Ainsi, dans l'Ancien Testament, Hamad n'est en lui-même pas une mauvaise chose. Et voyez-vous, il en est de même dans le Nouveau Testament. Rendons-nous en Romains, chapitre 13, verset 9, où l'apôtre Paul cite le dixième commandement, tout du moins une partie de celui-ci. Romains, où allons-nous? C'est cela, Romains, chapitre 13, verset 9. Romains, l'épître de Paul aux Romains, chapitre 13 et au verset 9. Et là, il nous est dit, en Romains 13, verset 9, « En effet, les commandements de point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne convoiteras point, et tout autre commandement, tout cela se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le terme que nous avons ici en Romains 13, verset 9, le terme qui est traduit ici par « convoitera », eh bien, il vient du grec « episumeo », lequel Jésus lui-même employa, ou tout du moins que celui qui a écrit l'évangile de Luc attribua aux paroles de Jésus en Luc 22, verset 15. Rendons-nous en Luc, chapitre 22 et au verset 15, pour voir comment cela est placé dans la bouche de Jésus. Luc 22, verset 15. Luc, chapitre 22, verset 15. Où il est dit, où Jésus dit à ses disciples, « J'ai fort désiré de manger cette Pâque avec vous avant que je souffre. » Ici, « episumeo » est traduit par « désiré ». Voyez-vous, Jésus lui-même éprouva cela. Tout comme les anges d'ailleurs. Rendons-nous en 1 Pierre, chapitre 1, verset 12. Où allons-nous? En 1 Pierre, chapitre 1 et au verset 12. Premier épître de Pierre, chapitre 1 et au verset 12. Où nous lisons que « Et il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux, mais pour nous, qu'ils étaient dispensateurs de ces choses qui vous ont été annoncées maintenant par ceux qui vous ont prêché l'Évangile, par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. » Dans ce verset, « episumeo » est traduit par « désir ». Les anges, mes amis, désirent plonger leur regard dans le plan du salut. Et les hommes qui souhaitent faire avancer ce dernier, ils désirent eux aussi une bonne chose. En effet, rendons-nous en 1 Timothée, chapitre 3, verset 1. 1 Timothée, chapitre 3, verset 1. Premier épître de Paul au jeune pasteur Timothée, chapitre 3 et au verset 1, où il nous est dit « Toute parole est certaine. Si quelqu'un aspire à être évêque, il désire une œuvre excellente. » Comme vous en doutez certainement, ici, « episumeo » est traduit par « désir ». Ainsi, que ce soit avec Dieu, Jésus, les anges ou les hommes, nous voyons que de l'Ancien au Nouveau Testament, le désir ou le fait de prendre plaisir n'est pas une mauvaise chose en soi. Mais alors, quand est-ce que cela devient une mauvaise chose? Quand est-ce que cela devient une transgression du dixième commandement? la lettre de ce commandement nous dit que c'est lorsque l'objet du désir est la propriété exclusive de mon prochain. Considérons donc tout d'abord la lettre de ce commandement. La maison dont nous parle le dixième commandement, lorsqu'il nous est dit « tu ne convoiteras point », laissez-moi reprendre ça pour vous citer les termes exacts, parce que je ne le connais pas par cœur, mais verset 17, où il est dit « tu ne convoiteras point la maison de ton prochain ». Voilà. « Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. » Donc, la maison dont nous parle ce commandement n'est pas l'édifice dans lequel un homme habite avec sa famille, mais bel et bien sa famille, ainsi que toutes celles et ceux qui sont sous sa responsabilité et ceux et les choses qui lui appartiennent. En effet, le terme traduit par maison en Exode 20, verset 17, vient de l'hébreu bayit, lequel est employé pour la première fois dans l'Écriture en Genèse chapitre 7, verset 1. Je vous invite à vous rendre avec moi, s'il vous plaît, en Genèse chapitre 7 et au verset 1. Genèse chapitre 7 et au verset 1. Genèse 7, verset 1. Où là, nous lisons que « Et l'Éternel dit à Noé, entre toi et toute ta maison, bayit, dans l'arche, excusez-moi, car je t'ai vu juste devant moi dans cette génération. » Noé n'est pas entré dans l'arche avec son domicile. Mais il y est entré avec sa femme, ses trois fils et ses trois belles-filles. Et bien évidemment, avec les animaux, les paires d'animaux que Dieu a amenés à lui, il les a fait entrer dans l'arche. Donc, les paroles disant « Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune autre chose qui soit à ton prochain », indique simplement la composition de la maison de mon prochain et tout ce que cela implique en fait. Saisissons ce que nous venons de dire, mes amis. Saisissons cette composition est une chose importante car c'est parce qu'ils opèrent une distinction à cet endroit que les catholiques et les luthériens divisent le dixième commandement en deux et qu'ils joignent le premier et le second en un seul. Parce que pour eux, le fait que Exode 20, verset 17, a deux fois dit, il emploie deux fois le terme Hamad, convoitera, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, virgule, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, etc., etc. Pour eux, c'est deux commandements différents. Alors que non, mes amis, c'est un seul et même commandement. C'est un seul et même commandement. Comme nous l'avons dit au tout début de cette présentation, le dixième commandement ne cible pas un acte, mais un désir. Et à cet égard, nous devons bien prêter attention aux conseils que nous lisons en Proverbes, chapitre 4 et au verset 23. Où nous rendons-nous? En Proverbes, chapitre 4 et au verset 23. Proverbes, chapitre 4 et au verset 23. Et prêtons bien attention à ce qui est marqué là. Proverbes 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose qu'on garde, car c'est de lui que procèdent les sources de la vie. Entretenir de mauvaises pensées entraînera de mauvais désirs, lesquels, avec le temps, donneront naissance à de mauvaises actions. Ainsi, lorsque la lettre du dixième commandement déclare « Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain avec ce qu'elle contient, ni aucune autre chose qui soit à ton prochain », il nous met en garde contre le point de départ du vol qu'interdit, qui est lui-même interdit par le huitième commandement. Il nous met en garde contre le point de départ de l'adultère, qui est interdit par le septième. Mais aussi, il nous met en garde contre le point de départ du meurtre et du faux témoignage, qui sont bien souvent motivés par les possessions d'autrui. En fait, c'est ce que les gens désirent qui caractérise la société dans laquelle ils vivent. En effet, les personnes capables de réfréner leurs désirs, de sorte que ces derniers soient limités aux objets qu'ils devraient désirer, sont des personnes qui contribuent au bien de leur société. En revanche, celles et ceux qui donnent libre cours à leurs désirs, de sorte que ces derniers se portent sur des objets qu'ils ne devraient pas désirer, sont des personnes qui participent à la dégradation de la fibre morale de leur société. Ainsi, le dixième commandement est présenté comme étant la dernière parole de l'Alliance, car il indique qu'une mauvaise disposition intérieure est la racine d'autres violations de l'Alliance. Mais il y a plus. Dieu connaît toutes les pensées de nos cœurs. D'après ce que David révéla à son fils Salomon en 1 Chronique, chapitre 28, verset 9. Où allons-nous? 1 Chronique, chapitre 28, verset 9. Le premier livre des Chroniques, chapitre 28 et au verset 9, où nous pouvons lire en 1 Chronique, chapitre 28, verset 9, « Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le avec intégrité de cœur et une âme empressée, car l'Éternel sonde tous les cœurs et discerne tout dessein des pensées. Si tu le cherches, il se fera trouver de toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. » Mes amis, rien ne peut se dérober aux yeux de Dieu. D'après ce que l'apôtre Paul nous dit en Hébreux, chapitre 4, verset 13. Où allons-nous? En Hébreux, chapitre 4 et au verset 13. Hébreux, chapitre 4 et au verset 13, où nous lisons que « Et il n'y a aucune créature qui soit cachée devant lui, mais toutes choses sont nues et entièrement découvertes aux yeux de celui auquel nous devons rendre compte. » Mes amis, réalisons-nous que Dieu nous demandera compte pour les pensées secrètes de nos cœurs aussi bien que pour nos actions? Dieu se préoccupe moins de l'acte extérieur que de la pensée qui est à l'origine de l'acte. C'est pourquoi nous pouvons affirmer que les pensées mêmes de nos cœurs relève de la juridiction de la loi de Dieu et que nous sommes aussi responsables d'elle, de nos pensées. Nous sommes aussi responsables d'elle que de nos actions. Voyez-vous, la plupart des codes de loi se limitent aux actes. Quelques-uns concernent les paroles. Mais le décalogue est le seul code qui aille jusqu'aux pensées, mes amis. Le seul. C'est ce que Jésus nous montre en Matthieu, chapitre 5, verset 28. Où allons-nous? Matthieu, chapitre 5, verset 28. Où nous lisons en Matthieu, chapitre 5, verset 28. Matthieu, chapitre 5, verset 28. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Lorsque, je fais une parenthèse ici, lorsque nous avons étudié le commandement qui nous parle contre l'adultère, nous avons établi le fait que le divorce, Dieu valide un divorce, effectivement, lorsque tout du moins, quelqu'un, l'un des partenaires, peut se remarier, peut divorcer de son partenaire actuel pour se remarier si son partenaire actuel l'a préalablement trompé avec quelqu'un d'autre, l'a préalablement commis adultère avec quelqu'un d'autre. Mes amis, cela est vrai, effectivement, cela est vrai. Et donc, le mariage est un engagement devant Dieu, mais aussi devant les hommes, d'accord? Autrement, si ce n'était pas un engagement devant les hommes, Dieu n'aurait pas donné un commandement pour protéger le mariage. Donc, il doit, en quelque part, être attesté que l'adultère a été commis. Mais mes amis, du moment que nous avons trompé notre femme ou notre mari ici, dans notre tête, là, dans notre esprit, dans notre cœur, à partir de ce moment-là, Dieu nous considère déjà comme des adultères. Votre conjoint ne le sait pas, mais Dieu le sait. Faisons attention, mes amis. Faisons très attention. Car la loi de Dieu est une loi spirituelle à laquelle les observateurs ayant une pensée charnelle ne peuvent pas se conformer. Car elle doit être observée de cœur, avec le cœur. C'est ce que nous lisons en Deutéronome 26, verset 16. Où allons-nous? En Deutéronome 26, verset 16. Deutéronome, chapitre 26 et au verset 16. Je vous invite à vous rendre avec moi en Deutéronome chapitre 26 au verset 16, où nous lisons « Aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te commande de pratiquer ses statuts et ses ordonnances. Prends donc garde à les pratiquer de tout ton cœur et de toute ton âme. » Voyez-vous? Si on a une observation formaliste des 10 commandements, mes amis, c'est pas ça. On est à côté de la plaque, comme on dit aujourd'hui. On est à côté de la plaque. C'est pas ça. Il faut être un être spirituel de manière à pouvoir rendre une obéissance acceptable, mes amis. Acceptable. Après avoir dressé cette analyse de la lettre du 10e commandement, laquelle, comme analyse, vous trouverez, je pense qu'elle est déjà spirituelle en soi, considérons maintenant l'esprit de ce commandement, c'est-à-dire sa signification telle qu'elle n'apparaît pas de prime abord. Et oui, mes amis, car nous avons, ce que nous avons dit là a servi à creuser, ok? Mes amis, il y a encore, le commandement va plus loin. le commandement va plus loin. Et le lecteur superficiel de la loi ne comprend pas ces choses. C'est pour cela qu'il nous faut sonder la loi de Dieu. Je vous invite d'ailleurs, au passage, à lire, après que vous aurez considéré toute cette série d'études, lisez le psaume 119. Et je pense que vous allez comprendre le psaume 119 dorénavant, avec tout ce que nous avons vu. Relisez le psaume 119 un jour, et après avoir considéré tout ce que nous avons vu, comment nous avons disséqué chaque commandement et montré comment les choses... Relisez ce psaume-là. Alors, rentrons dans l'esprit, la profondeur de ce commandement, mes amis. Jusqu'ici, nous avons montré que la convoitise est à l'origine, si je résume en fait, de manière suivante, nous avons montré juste ici qu'en fait que la convoitise était à l'origine de tous les péchés contre mon prochain. Ok? La convoitise est à l'origine de tous les péchés qui sont sous la seconde table de l'Alliance, plus précisément du péché numéro 6 au péché numéro 9. D'accord? C'est la convoitise qui donne naissance à ces péchés-là. Ok? Mais maintenant, mes amis, nous allons voir que la convoitise, en réalité, est à l'origine de tous les péchés. Oui, oui. Et c'est là l'esprit de la loi, en fait. C'est là l'esprit de ce commandement-là, en tout cas. Rappelez-vous que le terme traduit par « convoitera » en Exode, chapitre 20, verset 17, vient de l'hébreu « hamad », et que son équivalent grec, « episumeo », tout du moins, et que son équivalent grec est episumeo. Ok? Donc, en hébreu, vous avez hamad, et l'équivalent grec de hamad est episumeo. Ok? Rendons-nous maintenant en Romains, chapitre 7. Romains, l'épître de Paul aux Romains, chapitre 7. Et considérons là la profondeur que l'apôtre Paul vit dans ce dixième commandement. Romains, chapitre 7, versets 7 et 8. Romains, chapitre 7, versets 7 et 8. Romains, chapitre 7, versets 7 et 8. Où il nous est dit, que dirons-nous donc? La loi est-elle la cause du péché? Nullement. Au contraire, je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'eusse connu la convoitise si la loi nous dit « Tu ne convoiteras point ». Verset 8. Mais le péché, prenant occasion du commandement, a produit en moi toutes sortes de convoitises, car sans la loi, le péché est mort. En lisant ce verset, on pourrait croire que l'apôtre cite le dixième commandement tel un échantillon. Mais tel n'est pas le cas, mes amis. En effet, si Paul ne faisait que citer le dixième commandement tel un exemple, il n'y aurait alors que la transgression du dixième commandement qui serait un péché. Et pas celle du premier, deuxième, troisième, etc. Et oui, car 1 Jean, chapitre 3, verset 4, je vous le rappelle, dit que le péché est la transgression de la loi. Or, le fait que Paul ait choisi le dixième commandement est une chose très significative. Car il expose que la convoitise est le principe qui sous-tend tous les péchés. Et c'est ce qu'il fit au chapitre précédent. Romains, chapitre 6, et lisons le verset 12 à présent. Romains 6, verset 12, c'est juste la page d'avant dans votre Bible, ou si vous avez une ostervale comme moi, c'est la page de gauche. Romains 6, verset 12, où il est dit « Que le péché ne règne donc point dans vos corps mortels pour lui obéir en ses convoitises. » Vous pouvez lire les 22 autres versets du chapitre 6 Et pas une seule fois, vous ne verrez la transgression de la lettre du dixième commandement comme étant le péché dont parle l'apôtre Paul. Non, vous ne verrez pas ça. Tout comme Paul, Jacques savait que la convoitise était à l'origine de tout péché. Rendons-nous, s'il vous plaît, je vous prie, en Jacques chapitre 1, verset 13 à 15. Où allons-nous? En Jacques chapitre 1, verset 13 à 15. Jacques chapitre 1, verset 13 à 15. Jacques chapitre 1, verset 13 à 15. Où nous lisons: et après que la convoitise a conçu, elle enfante le péché. Alors, excusez-moi, j'ai lu le verset 15. Lisons le verset 13 à 15. Que personne ne dise lorsqu'il est tenté, c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Et lui-même ne tente personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Et après que la convoitise a conçu, elle enfante le péché, et le péché, étant consommé, engendre la mort. C'est clair, non? C'est clair. Ici, on voit que les apôtres de l'agneau, les apôtres de Jésus, avaient compris que la convoitise, hamad, episumeo, est à l'origine de tous les péchés. Mais alors, où les apôtres ont-ils appris que tout péché a pour origine la convoitise? Pour le savoir, rendons-nous en Genèse, chapitre 2, verset 9, où Hamad apparaît pour la première fois dans les Écritures. Je vous invite, encore une fois, à vous rendre avec moi en Genèse, chapitre 2 et au verset 9. Genèse, chapitre 2 et au verset 9. Et je vous préviens d'avance, je vous préviens. Vous allez découvrir des choses. Nous allons ensemble découvrir des choses là. OK? Peut-être des choses que vous n'avez jamais encore comprises. Alors préparez-vous pour pouvoir comprendre ces choses. Genèse, chapitre 2. Et au verset 9. Et l'Éternel fit germer du sol tout arbre, toutes sortes d'arbres, excusez-moi, agréables à la vue et bons à manger. Et l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ici, Hamad a été traduit par agréable. Lorsqu'il est dit toutes sortes d'arbres agréables. OK? Maintenant, je vous invite à bien prêter attention à la manière dont nous allons analyser ce verset. Ne me regardez pas. Ne me regardez pas. Regardez le verset. Fixez vos yeux sous le verset. Fixez vos yeux sous le verset. De manière à ce que vous puissiez suivre l'analyse que je vais vous présenter. Dieu est celui qui fit germer du sol du jardin d'Éden tous les arbres qui composent ce dernier, qui composaient ce dernier tout du moins. Je reprends. Dieu est celui qui fit germer du sol du jardin d'Éden tous les arbres qui composaient ce dernier. Tous les arbres que Dieu fit germer étaient agréable à la vue et bon à manger. Et parmi ces arbres agréables à voir et bon à manger, se trouvait l'arbre de vie, mais aussi l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Oui, vous avez bien entendu ce que j'ai dit, mes amis. C'est Dieu lui-même qui fit germer l'arbre de la connaissance du bien et du mal, lequel, comme tous les autres, était agréable à voir et bon à manger. Comprendre ce que je viens de dire est très important. Mais avant d'aller plus loin, il me faut clarifier ce que je viens de dire à l'instant. En m'écoutant dire cela, vous devez penser que je suis un hérétique. Car vous vous dites que je suis en train de vous enseigner que c'est Dieu qui a introduit la connaissance du bien, la connaissance du mal plus précisément, que c'est Dieu qui a introduit la connaissance du mal. Mais mes amis, je n'ai jamais dit que la connaissance du mal fut introduite par Dieu. OK? Et pour ceux qui regardent cet enregistrement, rembobinez. Vous verrez que je n'ai jamais dit que c'est Dieu qui a introduit la connaissance du mal. Non, ce n'est pas Dieu qui a introduit la connaissance du mal. Non. Mais j'ai dit que c'est Dieu qui fit germer l'arbre que l'Écriture nomme arbre de la connaissance du bien et du mal. Voilà ce que j'ai dit. Ou tout du moins que j'ai voulu faire comprendre. Et là que je clarifie pour vous. Mes amis, pour bien comprendre cela, pour bien comprendre cette différence qu'il y a, il faut saisir la signification du nom de cet arbre. En Genèse chapitre 2, versets 16 et 17, Dieu autorisa Adam et Ève à manger du fruit de tous les arbres du jardin, sauf celui de la connaissance du bien et du mal. Cet arbre fut appelé ainsi, car en mangeant de son fruit, l'homme obtiendrait l'expérience de la désobéissance, de la connaissance du péché. Autrement dit, de la connaissance du mal. Laquelle, la connaissance, viendrait mettre un terme à l'expérience paisible de l'obéissance, de la connaissance de la justice, c'est-à-dire de la connaissance du bien. Okay? Donc c'est en opposition, en fait, qu'il faut comprendre l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire qu'on passe du bien pour aller vers le mal, en fait. Mais alors, si cet arbre était agréable à voir et si son fruit était bon à manger, pourquoi Dieu interdisait-il à Adam et Ève d'en manger? Tout simplement parce que Dieu voulait tester la loyauté des êtres libres qu'il venait de créer. Et Genèse chapitre 3, verset 6, nous donne le résultat de ce test. Il nous rapporte le résultat du test. Considérons le chapitre suivant, Genèse 3, verset 6, et prêtons attention à ce qu'il est dit là. Et la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, et qu'il était agréable à la vue, et que l'arbre était désirable pour devenir intelligent. Et elle prit de son fruit et en mangea, et en donna aussi à son mari auprès d'elle, et il en mangea. Ici, Hamad a été traduit par désirable. OK? J'ai une question pour vous. D'après vous, à partir de quel moment le péché est-il entré dans notre monde? Était-ce lorsque Ève mangea du fruit? Non. Ce fut lorsqu'elle convoita ce dernier dans son cœur. L'acte de prendre le fruit et d'en manger n'était que la conséquence naturelle de s'être exposé à la convoitise du fruit défendu, mes amis. De manière à illustrer ce que nous venons de dire sur Genèse 2, verset 9 et Genèse 3, verset 6, je voudrais vous proposer l'exemple suivant. Dieu accorde à un homme une épouse, une femme. cette épouse, cette femme que Dieu accorde à cet homme, elle est, eh bien, agréable à la vue. Elle est belle. OK? Et voyez-vous, qu'elle soit belle ou pas, et bon, dans mon exemple, elle est belle, mais belle ou pas, en fait, la femme que Dieu accorde à un homme, du moment qu'elle devient la femme de cet homme, elle est alors défendue à tous les autres hommes. OK? Ça veut dire que les hommes ont défense d'y toucher. Les hommes ont défense de faire de la convoitée, de quoi que ce soit. OK? Donc, dans mon exemple, la femme, elle est belle. Elle est agréable à la vue. OK? Elle est agréable à la vue. Et donc, voilà. Maintenant, est-ce une faute de la part du Créateur d'avoir accordé à cet homme la possession, la jouissance exclusive de cette femme agréable à la vue? Est-ce que Dieu est en tort d'avoir fait ça? Non, pas du tout. Celui qui a tort est l'homme qui convoite cette femme défendue en vertu du septième commandement qui, pleinement révélé dans le dixième, interdit de commettre l'adultère avec elle dans son cœur. Ainsi, l'interdiction de convoiter la femme de cet homme est tout aussi importante que l'interdiction qu'avaient Adam et Ève de manger de l'arbre dont nous parle Genèse chapitre 2, verset 17. Car la femme de cet homme était tout aussi défendue que ne l'était l'arbre. Oui, mes amis. Par conséquent, le péché entra dans le monde par la convoitise de ce qui avait été défendu. L'acte de prendre le fruit et d'en manger n'était que la conséquence naturelle de cette exposé à la convoitise du fruit défendu. J'aimerais maintenant attirer votre attention sur le caractère de la convoitise qui introduisit le péché dans notre monde. Et là encore, je vous demande de vous préparer. Je vous demande de vous concentrer. Prêtons attention à ça. Avant de nous rapporter l'action d'Ève vis-à-vis du fruit, le texte biblique prend le temps de mentionner à trois reprises à quel point l'arbre était, je dirais, charmant. Okay? Reprenons Genèse chapitre 3 et considérons, je vous demande de ne pas me regarder, mais d'avoir les yeux fixés sur votre Bible, okay? Et plus précisément, d'avoir vos yeux fixés sur le verset 6 de Genèse chapitre 3. Fixez les yeux, Genèse chapitre 6. Genèse chapitre 3 et le verset 6. Genèse 3, verset 6. Et suivez l'analyse que je vais faire encore une fois. Mais là, ce sera une analyse beaucoup plus simple. Je vais juste lire le texte et mettre des numéros, d'accord? Suivez cela. Genèse 3, verset 6. Et la femme vit que 1. Le fruit de l'arbre était bon à manger, et 2. Qu'il était agréable à la vue, et que 3. L'arbre était désirable pour devenir intelligent. Je m'arrête là, dans la citation du verset. Voilà, mes amis, les trois reprises, voilà les trois mentions, ce que le texte nous dit. Le texte, l'inspiration, prend le temps de mentionner à trois reprises à quel point l'arbre est désirable, l'arbre était charmant, l'arbre était, il attirait la vue, à quel point il attirait. Et il donne trois caractéristiques, mes amis. Notez que l'arbre faisait appel à 1. Son goût, 2. À sa vue, et 3. À son désir d'une sagesse accrue. mes amis, c'est ce à quoi l'apôtre Jean fait appel en 1 Jean, chapitre 2, versets 15 et 16. Rendez-vous avec moi, je vous prie, en 1 Jean, chapitre 2, versets 15 et 16. 1 Jean, chapitre 2, versets 15 et 16. Où il est dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais du monde. Les hommes qui disent qu'il n'y a que 7 péchés capitaux n'ont pas de base biblique pour dire cela. Car la Bible nous montre très clairement qu'il n'y en a que 3. Il n'y a que 3 péchés capitaux, pour employer cette expression. C'est-à-dire des péchés qui sont à la base d'autres péchés, en fait. Voilà. Vous avez la convoitise qui se subdivise en 3, mes amis. Et c'est ça qui est à la base de tous les autres péchés, mes amis. Il n'y en a pas 7, il y en a 3, mes amis. 3. C'est 3. Le temps me manquerait pour dresser un exposé complet de ce verset et j'y consacrerai une présentation entière ultérieurement. Mais pour l'heure, nous devons établir le constat suivant. Les premiers mondains que ce monde a connus, les premiers êtres humains mondains que ce monde a connus, c'est-à-dire Adam et Ève, eh bien, ils étaient des observateurs du sabbat. Si je dis cela, c'est pour que vous réalisiez à quel point la convoitise de ce qui est défendu peut faire déchoir les enfants de Dieu, mes amis. Je pense qu'arrivé ici, vous réalisez que la convoitise est tout sauf une petite affaire, mes amis. Cela est tout sauf une petite affaire, parce que c'est à la base de tous les péchés. Ce sont les désirs égoïstes qui corrompent notre disposition intérieure. Et du fait que celle-ci se traduit souvent en action, cette convoitise motive bien d'autres péchés, à en croire les paroles de Jésus en Marc, chapitre 7, versets 20 à 23. Où allons-nous? En Marc, chapitre 7, versets 20 à 23. Marc, chapitre 7, versets 20 à 23, où nous lisons, « Il disait, donc, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme, car du dedans, c'est-à-dire du cœur des hommes, sortent les mauvaises pensées, les adultères, les fornications, les meurtres, les larcins, la cupidité, les méchancetés, la fraude, l'impudicité, l'œil envieux, la médisance, la fierté, la folie. Tous ces vices sortent du dedans et souillent l'homme. » Mais alors, que pouvons-nous faire contre la mauvaise convoitise? Que pouvons-nous faire contre la convoitise des choses défendues? Est-ce que nous pouvons faire quelque chose? C'est la question que l'on peut se poser. En nous disant, tu ne convoiteras point dans le dixième commandement, dans la dixième et dernière parole de l'Alliance, Dieu nous fait comprendre que nous ne sommes pas des esclaves sans défense de nos désirs charnels, de nos désirs naturels. En nous se trouve une force, la volonté, laquelle, fortifiée et sous le contrôle de Christ, peut surmonter chaque désir illicite, mes amis. Nous avons une volonté, mes amis. Nous avons une volonté. Nous pouvons décider de faire quelque chose, de ne pas le faire. Or, bien souvent, l'homme, nous sentons esclaves. Nous sentons que notre volonté est esclave et captive de ce que l'on convoite. Mais c'est parce qu'on ne travaille pas, on n'a pas exercé sa volonté. Et on ne l'a pas donné à Christ. Mais lorsque cela se passe, eh bien, il se produit ce que nous lisons en Philippiens. C'est un texte que je n'avais pas prévu de prendre, que j'aurais peut-être dû prévoir de prendre parce qu'il colle parfaitement avec ce que nous lisons. Philippiens chapitre 2, versets 12 et 13. Philippiens chapitre 2, versets 12 et 13. Philippiens chapitre 2, versets 12 et 13. Où il est dit, « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi non seulement en ma présence, mais plus encore maintenant en mon absence, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Voilà pourquoi je vous disais que cette volonté doit être connectée à Christ. Okay? Car Dieu va la fortifier, mes amis. Et Dieu va produire en nous cette volonté. Okay? De sorte que de ce sentiment d'esclave que nous pouvons ressentir parfois, eh bien, nous puissions dominer nos désirs. Donc, en nous se trouve une force, la volonté, qui, sous le contrôle du Christ, peut surmonter chaque désir illicite. Ce qui implique, en disant tout cela, cela implique que l'homme est un agent moral libre. Et c'est en tant qu'agent moral libre que Dieu nous demande de prendre le contre-pied de la convoitise naturelle en nous contentant de ce qu'il a placé à notre disposition. Rendons-nous en 1 Timothée, chapitre 6, verset 6. 1 Timothée, chapitre 6 et au verset 6. 1 Timothée, chapitre 6 et au verset 6. 1 Timothée 6, verset 6, où nous lisons « Or, c'est un grand gain que la piété avec le contentement d'esprit. » C'est un grand gain que la piété avec le contentement d'esprit. En Hébreu, chapitre 13, verset 5. Hébreu, chapitre 13, verset 5. Hébreu, chapitre 13, verset 5. Un point qui complète ce que nous avons dit avec 1 Timothée 6, verset 6. Hébreu 13, verset 5. Que votre conduite soit exemple d'avarice. Soyez content. OK? Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, certainement, je ne te laisserai point et je ne t'abandonnerai point. Si Ève s'était contentée du fait qu'elle pouvait manger de tous les arbres du jardin d'Éden, elle n'aurait jamais vu comme une privation le fait d'être loyale à Dieu en ne convoitant pas et de ce fait en n'allant pas manger le fruit de l'arbre défendu. Non, elle ne s'était pas contentée. elle ne s'était pas contentée de ce qu'elle avait. Tous les arbres, elle pouvait manger de tous les fruits, de tous les arbres, sauf cet arbre-là. Mais c'est celui-là qu'elle a voulu manger. Aujourd'hui encore, c'est parce qu'ils ne se contentent pas de leur conjoint que des hommes et des femmes commettent l'adultère. C'est parce qu'ils ne se contentent pas de leur salaire que des hommes dérobent, mentent et commettent des meurtres. Et mes amis, cela se passe dans l'Église aussi. Rendons-nous en Jacques, chapitre 4, et lisons du verset 1 jusqu'au verset 10. Jacques chapitre 4, verset 1 à 10. Je reprends une dernière fois, Jacques 4, 1 à 10. D'où viennent parmi vous les dissensions et les querelles? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous n'obtenez pas. Vous êtes meurtrier et jaloux et vous ne pouvez être satisfait. Vous luttez et vous faites la guerre et vous n'obtenez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez point parce que vous demandez mal et dans la vue de satisfaire à vos désirs. Hommes et femmes adultères, ne savez-vous pas que l'amour du monde est une inimitié contre Dieu? Qui voudra donc être ami du monde se rendra ennemi de Dieu. Pensez-vous que l'Écriture parle en vain? L'Esprit qui habite en nous a-t-il des désirs qui portent à l'envie? Au contraire, il accorde une grâce plus grande. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il s'enfuira de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Pécheurs, nettoyez vos mains et vous qui avez le cœur partagé, purifiez vos cœurs. Sentez votre misère, verset 9, et soyez dans le deuil, et pleurez, que votre rire se change en pleurs, et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. Combien de fois dans l'Église, nous avons des combats qui ont lieu? Combien de fois dans l'Église, nous avons des querelles qui ont lieu? Et c'est parce que il y a quelqu'un qui occupe une position qu'on veut occuper. Mes amis, c'est un péché, ça. C'est un péché, c'est la convoitise. La Bible l'appelle comme ça, c'est de la convoitise, c'est un péché. Et on joue des coudes, on fait toutes sortes de choses pour le faire tomber. Vous savez comment Dieu appelle ça? Vous savez comment Dieu appelle les personnes qui font ça, mes amis? Verset 4 de Jacques 4. Hommes et femmes adultères. Vous vous rendez compte? Waouh, mais c'est fort! Le Seigneur, mais attendez, le Seigneur, il a un problème. Je suis religieux, je prie le matin, je médite, machin, et juste parce que j'ai voulu faire descendre le monsieur, là, il me traite d'adultère? Non. Il ne traite pas seulement d'adultère. Hein. Non. Il nous considère comme des mondains, parce qu'on a l'amour du monde. Vous vous rendez compte? Le simple fait de convoiter, mes amis, le simple fait de convoiter des choses que Dieu n'a pas pour nous, des choses que nous convoitons juste pour notre intérêt personnel, pour nous faire plaisir de manière égoïste. Nous sommes des adultères et des mondains, mes amis. Et la solution, mes amis, c'est l'humilité. Le texte ne passe pas par quatre chemins. L'humilité. Parce qu'il y a de l'orgueil derrière ça. Normalement, dans l'Église, plutôt que de chercher plutôt que de chercher à déplacer les autres, plutôt que de chercher à prendre la position d'une autre personne dans l'Église, nous devrions désirer avec ardeur les dons les meilleurs. 1 Corinthiens chapitre 12 et verset 13. 1 Corinthiens chapitre 12 et verset 13. 1 Corinthiens chapitre 12 et verset 13. Où nous lisons, verset 31, autant pour moi. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 31. Excusez-moi. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 31. Où il est dit, or, désirez avec ardeur les dons les meilleurs, et je vais vous montrer une voie encore plus excellente. Wow. Après avoir présenté différents dons spirituels au chapitre 12, l'apôtre Paul nous présente le don de l'amour au chapitre 13. Et il nous fait comprendre que ça est plus excellent. Si nous recherchons ce don, mes amis, il n'y aurait jamais eu de querelle dans l'Église. Il n'y aurait jamais eu de cancan, de combat pour pouvoir occuper telle position, avoir tel truc. Jamais. Combien d'entre nous aspirent à aimer comme Dieu aime? Combien d'entre nous aspirent à recevoir l'amour agapé? Nous devrions tous aspirer à ce don, mes amis. Car c'est en lui que s'accomplit la loi. Oui, mes amis, nous devrions tous aspirer avec ardeur à ce don, car il s'agit là d'aspirer à ressembler à Dieu, parce que tel est le caractère de Dieu. Amen.
Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.